On entre dans le prétoire, c'est la chronique du service Enquête Justice de France Inter avec Sarah Guibaudot ce matin. Retour avec vous Sarah sur l'attentat de la rue Copernic, c'était le 3 octobre 1980. Quatre personnes avaient été tuées devant la synagogue parisienne. Et bien 36 ans après, le poseur de bombes présumé est en détention provisoire. Mais à force de clamer son innocence, les juges d'instruction se prennent à douter, Sarah.
Du poseur de bombes de la rue Copernic, on n'a connu longtemps qu'un portrait robot et un faux passeport chypriote. Mais les années passent et les langues se délient parmi les anciens du terrorisme international. Dans les années 90, les services de renseignement apprennent que l'attentat serait l'œuvre d'un commando libanais dissident du FPLP, le Front de Libération de la Palestine. Le faux passeport cacherait un certain Hassan Diab, réfugié aux États-Unis puis au Canada, où il enseigne la sociologie. En 2008, le juge Marc Trévidic demande l'extradition du professeur Diab. Il clame son innocence, mais il est finalement extradé, mis en examen et écroué en novembre 2014. Parmi les éléments à charge, il y avait surtout son passeport, retrouvé en 1981 avec des tampons d'entrée et sortie en Europe à la période de l'attentat. Diab dit qu'il l'avait perdu. Il y avait aussi le témoignage d'un couple libanais qui atteste qu'Hassan Diab était proche de ces groupes palestiniens. Mais aujourd'hui, de nouveaux témoignages sont venus les contredire, celui de son ex-femme et de quatre anciens étudiants. Ils ne lui connaissent aucun engagement politique et se souviennent qu'à la fin de l'été 1980, ils révisaient avec Diab leurs examens pour la fac à Beyrouth. Pour les deux juges qui ont repris le dossier, il y a aujourd'hui de sérieux doutes sur la présence du suspect à Paris, William Bourdon et son avocat.
Pendant des années, la France va tout faire pour récupérer Hassan Diab. Et donc, il y a une présentation qui est faite du dossier aux Canadiens, qui est une présentation très unilatérale et qui ne peut d'ailleurs que se limiter à un empilement d'un certain nombre d'indices. Donc quand il est mis en examen et récupéré à Hassan Diab, sa première attitude va être de garder le silence. C'était une ânerie. La conseil qui lui avait été donné, la culture anglo-saxonne, les avocats canadiens, la sacralisation du droit de se taire. Bon, très vite, il a compris que s'il voulait établir son innocence, il fallait qu'il s'explique. Donc plus il s'est expliqué, plus les juges ont fait des vérifications, plus les juges ont entendu des témoins, et plus les charges se sont effritées. Évaporé. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans le dossier, il reste ces éléments qui peuvent exister dans certaines histoires, certaines trajectoires humaines. Il y avait de quoi le mettre en examen, mais il n'y a absolument pas de quoi le renvoyer devant la cour d'assises. Et il est normal que les juges d'instruction, de façon répétée et inlassable, disent que la seule place de cet homme, c'est aujourd'hui la liberté.
Et pourtant, Sarah, Hassan Diab dort toujours en prison.
Les juges d'instruction ont ordonné 6 fois sa remise en liberté. À chaque fois, le parquet général s'y oppose, ainsi que la cour d'appel de Paris. Les parties civiles aussi, qui espèrent toujours tenir le poseur de bombes. Hassan Diab, 62 ans, avait pourtant trouvé un hébergement où il pouvait être assigné à résidence sous bracelet électronique. L'enquête peut déboucher sur un non-lieu ou un procès devant la cour d'assises spéciale. Les juges d'instruction, eux, estiment qu'il n'y a plus de perspective sérieuse d'avancer dans ce dossier. Mais le bras de fer judiciaire peut encore durer longtemps.
Merci Sarah Guibaudot, journaliste au service Enquête Justice de la rédaction de France Inter. C'était dans le prétoire.